Allez, fabuleux. Bonsoir, bonsoir Sacha.
J'ai envie de t'appeler madame ce soir.
Mais vas-y, je t'en prie, tous les jours. Bonsoir Antoine.
Yeah.
Ça va?
Très bien.
La pêche?
Bah ouais.
Ok. Je crois qu'on a quelqu'un qui nous rejoint là. Enfin, peut-être qu'il va changer d'avis.
Bonjour.
Ah,
ouh.
Ah,
bah. Hein?
Mais on...
Allô?
Où es-tu?
Ah!
Allô?
Oh!
Bonjour!
Oh non!
Comment ça va?
Il a l'air tellement doux, ton pilou!
Je suis un pilou. Voilà, faut bien prendre soin de tout ce merdier là. Voilà.
On a grand corps malade avec
vous. C'est la crève reconductible. Ok.
La crève reconductible. Non, je voulais juste vous faire un gros bisou, vous dire que je suis désolé de pas pouvoir être avec vous ce soir, mais je suis dans la maladance. Voilà, je suis surtout désolé pour le public. Désolé les amis, j'aurais adoré vous voir ce soir et boire une bière avec vous, mais apparemment c'est mieux pour vous si on reste à distance ce soir. Donc voilà, des gros bisous. Merci à toi Léa d'avoir accepté de me remplacer au pied levé pour présenter Backseat. Bravo pour lui fort, c'était vachement bien.
J'espère, merci.
Et voilà quoi, non, je voulais juste vous faire un petit coucou pour vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne émission. Et je vous laisse entre les mains expertes de Léa et je vous dis à très bientôt.
Merci Jean. Oh bah c'était rapide. Bon bah sans transition, la réforme des retraites. Ok. Alors hop, la réforme des retraites, bon, on va parler quand même de ça un peu hein. Alors déjà, côté mobilisation, il y a eu une grosse manif quand même là le mardi dernier. Apparemment 3,5 millions de manifestantes et de manifestants d'après les syndicats, 1,3 million quand même d'après le ministère de l'Intérieur.
Et 12 selon Occurrence.
Ouais, ils ont compté les gens dans la salle, c'est tout.
Et bah c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que finalement la mobilisation tient.
Ah bah oui.
Ouais, clairement. On est d'accord,
ça,
ouais.
Ça tient, et quand on regarde, il y a vraiment trois fronts à l'heure actuelle. T'as le front de l'Assemblée, du Parlement, enfin pas seulement l'Assemblée, d'ailleurs le Parlement de manière générale. T'as le front de la mobilisation, et on voit que les chiffres de mobilisation, ils baissent pas, au contraire, ouais. Ils ont plutôt tendance à
depuis
augmenter.
La première manif, 18 janvier, 17, oui, 19 janvier, ouais.
Exactement, c'est déjà, il y a pas mal, alors je sais plus, 5 ou 6 actes de mobilisation, ouais. Et là on est quand même sur un record historique de mobilisation, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, et quand tu regardes aussi le front de l'opinion, c'est toujours la même chose, c'est hyper stable dans les enquêtes d'opinion, c'est 60-70% de la population qui est opposée à la réforme et qui soutient la mobilisation, et qui même demande une mobilisation qui soit plus dure. Donc il y a clairement quelque chose qui est en train de se passer, et c'est pas du tout, la communication du gouvernement n'a pas du tout permis de faire baisser cette mobilisation.
Ouais, vous avez pas compris,
ils ont bien compris,
ça ne fonctionne plus. Écoute, tant mieux. Dans un sens, affaire à suivre, mais du coup, là, les syndicats appellent à une nouvelle manifestation samedi prochain. Les syndicats de SNCF et RATP ont décidé d'annoncer une grève reconductible, contrairement à la crève reconductible de Jean Massier.
Elle est bien celle-là.
Je pense qu'ils ont dû aller chercher l'idée par là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire que finalement la France n'a pas été suffisamment bloquée? Tu disais Antoine que vraisemblablement l'opinion publique serait favorable à ce que la France soit davantage bloquée. On nous avait promis qu'elle serait à l'arrêt le 7 mars. Sacha, t'en penses quoi?
Moi, je dirais pas qu'elle a pas été suffisamment bloquée. Je dirais que la stratégie de blocage qui est voulue par certains syndicats, même Laurent Berger avait appelé à bloquer toute la France le 7 mars, voulue aussi par LFI notamment, j'ai l'impression que cette stratégie de blocage, elle prend pas. Alors, ça ne remet pas du tout en cause l'énormité
de la mobilisation,
des mobilisations. Évidemment, ça, c'est factuel. La mobilisation faiblit pas. Mais le fait est que le blocage, pour l'instant, j'ai pas vu de France à l'arrêt, quoi. J'ai pas vu de France à l'arrêt, comme ça a pu être le cas en 95. J'ai pas vu de rideaux blessés. Donc, la question, c'est, est-ce qu'il n'y a pas une forme de mobilisation autre qui permettrait au gouvernement d'entendre un peu ce qui se passe dans la rue, peut-être, et qui ne passerait pas par le blocage.
Bah justement, pour revenir un peu sur les mobilisations, tu parlais des réactions politiques, tu parlais notamment de LFI. Jean-Luc Mélenchon a appelé à une dissolution de l'Assemblée nationale ou à un référendum. Antoine, ça t'inspire quoi, toi, hein? Tu penses que stratégiquement, c'est pertinent de demander une dissolution tout de suite là?
Bah, déjà, juste avant la stratégie, c'est sûr que sur le point de vue démocratique, il y a clairement quelque chose qui est en train de se passer. Parce que, alors peut-être que la France n'est pas à l'arrêt autant qu'en 1995, mais néanmoins, on est sur une population qui rejette très massivement cette réforme. Ouais, et surtout qui ne comprend pas contrairement à ce qui pouvait encore exister, je pense, il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, que avec une opposition aussi forte au sein de la population, une réforme puisse quand même passer. Et donc, il y a quelque chose qui joue au niveau de la représentation nationale et au niveau du fait de donner le pouvoir à des élus de gérer un peu le destin collectif pendant 5 ans sans avoir de possibilité d'avoir une mainmise sur ce qui est en train de se passer. Parce que tu vois, on disait 70% des gens qui sont opposés à la réforme, mais tu en as exactement le même chiffre, 70% qui pensent que malgré tout, la réforme, elle va passer, elle va être appliquée. Donc, il y a une question démocratique qui se joue là très clairement. Est-ce qu'une dissolution, ce serait vraiment répondre au problème ? Déjà, l'Assemblée nationale, elle est davantage représentative des équilibres politiques du pays qu'en 2017.
C'est vrai.
Mais malgré tout, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Et c'est plus, finalement, dans d'autres mécanismes, dans une nouvelle forme de démocratie, qu'il faudrait réfléchir à ça plutôt que d'aller vers la dissolution.
Après que Jean-Luc Mélenchon, pardon, c'est pas mon pote. Jean-Luc Mélenchon. demande la dissolution. Moi, j'avoue que ça m'étonne un peu parce que le rapport de force à l'Assemblée, il est clairement pas pour l'instant en faveur de LFI et de la NUPES, vu ce qui a été montré dans les débats sur la réforme des retraites pendant les deux semaines de débat là. Mm-hmm. Dans des sondages qui ont été réalisés, on a vu que Jean-Luc Mélenchon et LFI, c'était la quatrième, voire la cinquième force d'opposition à la réforme des retraites, derrière les syndicats, derrière le Rassemblement national. Je ne pense pas que ce soit une stratégie très win-win pour Jean-Luc Mélenchon de demander une dissolution pour le coup, surtout qu'il n'est pas Premier ministre, ne l'oublions
pas. C'est peut-être pas très pertinent. Est-ce qu'une dissolution serait intéressante pour Macron ?
On ne sait pas trop ce qui pourrait être intéressant pour Macron, vu le bourbier dans lequel il est à l'heure actuelle. Voilà. Mais ça, c'est compliqué à dire. Mais tu disais, ouais, effectivement, Mélenchon, la France insoumise, c'est pas eux qui bénéficient à première vue de ce qui est en train de se passer. Néanmoins, sur le moyen terme, si on reprend l'idée qu'il y a la question démocratique qui est un peu mise au centre quand même de l'attention, c'est quand même une thématique qui depuis 2012, hein, est au centre du programme de la France insoumise. Donc, je ne suis pas non plus persuadé que sur le moyen terme, ce soit une séquence qui leur soit si défavorable que ça. Après, pour Macron lui-même, dissous dans les circonstances actuelles, je ne suis pas certain qu'il referait les mêmes scores que ce qu'il a fait, il y a encore quelques mois. Et quand tu regardes les élections partielles même, franchement, c'est pas si défavorable à l'ANUPS que ça, d'ailleurs.
Ouais,
les résultats, ils sont plutôt en faveur de l'ANUPS. On dit que ça va favoriser le Rassemblement national.
C'est difficile d'avoir une vue globale à partir d'élections partielles, parce que c'est toujours dans des contextes très particuliers, mais c'est vrai que c'est intéressant de le relever. Un élément aussi, moi, qui me semblait intéressant, c'est de voir que cette intersyndicale exceptionnelle, à laquelle personne s'attendait, finalement, tient. Là, ils ont adressé un courrier à Macron en disant « ce serait cool qu'on se voit, stop ». Il les a un peu laissés en vue et Elisabeth Borne a dit « non mais vous avez qu'à envoyer un message à Dussopt ». Bah, c'est un peu ce qui s'est passé hein, en réalité. C'est quand même ouf que ça tienne encore autant. Moi, je mettais pas ma main coupée hein, début janvier que ça allait tenir aussi longtemps.
Laurent Berger, je sais pas ce qui lui arrive.
Il se radicalise.
Il a pris des protes. Hein, mais ce qui est intéressant, tu parles de front syndical et c'est vrai, il y a un vrai front syndical et ils arrivent à parler d'une seule voix. Il y a quelque chose que j'ai plutôt du mal à comprendre par contre, c'est la façon dont ils essayent absolument de vouloir distinguer ce qui se passe en termes de mobilisation syndicale et ce qui se passe en termes de mobilisation à l'Assemblée nationale et par les partis politiques. Le fait de pas vouloir être récupéré par les partis politique, ça les amène à plutôt opposer les deux formes de mobilisation. C'est Laurent Berger, encore la dernière fois sur France Inter, qui insistait sur le fait que c'est une mobilisation sociale, c'est pas une mobilisation politique, alors qu'intrinsèquement, le fait de faire grève, c'est quand même extrêmement politique. Donc c'est plutôt cette stratégie-là et le fait qu'il n'y ait pas de concordance entre l'opposition qu'on voit à l'Assemblée et l'opposition qu'on voit dans la rue, c'est plutôt ça qui m'étonne.
Je suis totalement d'accord avec Antoine. Et en plus, on a vu les syndicats, et notamment Laurent Berger et Philippe Martinez, s'en prendre très frontalement à la stratégie
de Jean-Luc, ton pote.
On l'embrasse.
Bah oui.
De la stratégie de LFI à l'Assemblée nationale. Et je pense que justement, cette distinction, ça les sert pour le coup.
Ouais, c'est clair. Autre sujet quand même, désolé, je coupe court assez rapidement parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais ça semble quand même assez important d'en parler. Bon, ça vous a pas échappé, hier, journée internationale de la femme avec les roses, tout ça, et puis sinon il y avait un vrai truc sérieux qui se passait, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et chaque 8 mars, désormais, c'est le moment de faire le bilan, calmement, j'espère que vous avez la ref, voilà, sur effectivement les reculs parce qu'il y en a, et les avancées en matière de droits des femmes. Alors, en marge de la mobilisation encore assez record, hein, on voit que les féministes se mobilisent dans toute la France, mais dans le monde entier, parce qu'il y a quand même un appel à la grève internationale féministe qui est assez chouette et assez intéressant, qui commence vraiment à prendre corps. En marge de ça, Emmanuel Macron a décidé de saluer la mémoire de Gisèle Halimi. Sacha, je te vois hocher de la tête, t'as pas l'air très convaincue.
Je pense que, en fait, Gisèle Halimi, elle est décédée en 2020. Elle est décédée en 2020 et ça fait 2 ans et demi, voire 3 ans qu'on attend que Emmanuel Macron lui rende hommage, justement, parce que grande avocate, qui a notamment permis d'ouvrir la voie à l'IVG avec le procès de Bobigny en 72. Elle avait défendu 5 femmes, dont une jeune femme de 16 ans qui avait été violée, qui avait décidé d'avorter.
Et voilà, illégalement, du coup, à l'époque.
Voilà, illégalement à l'époque, pardon. Et ça avait ouvert la voie à l'IVG. C'est aussi elle qui a permis que le viol soit constitué en crime.
Absolument.
Je pense que parler de récupération, c'est un peu compliqué pour moi, parce que s'il ne l'avait pas célébré, on lui aurait reproché.
Enfin, oui, mais célébré. L'idée de base, c'était quand même qu'elle rentre au Panthéon, en fait.
L'idée de base, c'était qu'elle rentre au Panthéon. Ça fait 2 ans que ça traîne. Élysée, c'est pas trop. Des dernières informations que j'ai lues, en tout cas, c'est pas mort. Le dossier n'est pas mort, pour le coup.
D'accord.
Il y a Joséphine Baker qui est rentrée au Panthéon avant. Ils ont peut-être privilégié un dossier sur l'autre, je sais pas. Mais a priori, c'est pas mort, de ce que dit l'Élysée. Donc...
Autre chose intéressante qui s'est passée hier, donc durant cette commémoration, Isabelle Macron, je sais pas qui c'est.
C'est nouveau.
C'est bon. Le double maléfique. Ah non, ça peut pas être ça. Donc Emmanuel Macron, pardon, a dit qu'il voulait que finalement reprendre à son compte, c'est-à-dire que l'exécutif reprenne à son compte la question de la constitutionnalisation du droit à l'avortement précisément. Et on fait un petit point là, technique. À la base, c'était une proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui ensuite a été complètement réécrite au Sénat et qui devait, si on s'en tient à la procédure qui doit être adoptée normalement pour les propositions de loi constitutionnelles, être soumise à référendum. Là, le président de la République a décidé que ce sera un projet de loi, mais dans le cadre d'un projet de loi constitutionnel qui sera plus global sur la réforme des institutions, et que finalement ça lui permet en fait de passer par le Congrès et d'éviter la voie du référendum. Il a parlé de liberté des femmes à avorter. C'est-à-dire qu'il a repris finalement la rédaction du texte tel qu'issu des débats au Sénat, qui pose un peu problème. Sacha, tu avais un petit point de vue là-dessus.
C'est vrai que les députés avaient voté cette constitutionnalisation, plus long mot de la langue française,
ouais,
il me semble.
Ouais, non, je crois que c'est anticonstitutionnellement.
Ah oui, c'est
anticonstitutionnellement,
ouais,
tu te souviens quand on était à l'école.
Avec l'appellation droit. Et le droit, ça oblige l'État, en fait. Ça oblige l'État à s'engager à ce que les femmes aient un accès à l'IVG et qu'il leur soit garanti.
Une obligation de moyens, ouais.
Voilà. Au Sénat, l'intitulé avait été modifié par Philippe Basse, sénateur LR, qui lui a réécrit un peu...
Président de la commission des lois, si je crois, je dis pas de conneries.
Excellent. On fact-checkera.
Ouais.
On a un service de fact-checking en direct.
Oui.
On fact-checker.
Le chat, tiens, le chat, fais ça. Jean, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît. En plus, je suis sûre qu'il le connaît par cœur. Ancien président. Ah, ok. Parfait. Merci, Jean.
Merci, Jean. Donc en fait, le Sénat a suivi l'avis du Conseil constitutionnel qui, lui, parlait de liberté, pour le coup. Et c'est Philippe Basse qui l'a réécrit en suivant l'avis du Conseil constitutionnel, qui lui-même suivait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est que ça oblige moins l'État. Mmh. C'est que ça oblige moins l'État, et c'est un peu problématique. Mais les constitutionnalistes vous expliquent que, dans les faits, ça ne changera a priori pas grand-chose.
Oui, affaire à suivre. Je crois que les associations type Planning et compagnie ne sont pas tout à fait d'accord, parce qu'en fait, le problème de la formulation telle qu'elle est, elle a été adoptée au Sénat, c'est que la loi constitutionnelle renvoie au législateur. C'est le législateur qui détermine les conditions dans lesquelles l'accès à l'IVG se réalise, en fait.
C'est
ce qui veut dire que, de fait, si on veut passer par des conditions plus restrictives à travers la loi, ce sera potentiellement possible.
Et tu as aussi ce problème à travers la forme que le Sénat a décidé, c'est-à-dire que le Sénat a décidé d'en faire un alinéa dans un article, alors que l'Assemblée nationale avait vraiment dit on veut que ce soit le 66e article, alinéa 2 de la Constitution. La forme aussi change.
Oui, bien sûr, sans compter qu'en plus, du coup, les personnes trans sont exclues, en fait. Les hommes trans qui peuvent être enceints sont exclus de la formulation, puisque le mot femme exclut de fait aussi cet accès aux personnes trans. Antoine, toi, tu as fait un petit point sur l'opinion publique. Qu'en pense l'opinion publique historique de cette constitutionnalisation.
J'aime bien faire ces petits
points. Oui, j'aime bien ce côté, le côté baromètre, thermomètre, côté pas le thermomètre de Jean Mastier, mais le thermomètre de l'opinion. Pardon.
J'espère.
J'arrête.
Oui, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une inquiétude qui est plus importante aujourd'hui qu'auparavant, justement, sur le fait que l'interruption volontaire de grossesse puisse être remise en question. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a 56% des Français seulement qui disent que c'est impossible qu'à moyen terme, qu'à court ou moyen terme, ce soit remis en question, alors que ce chiffre, c'était 65% en 1995. Donc tu vois qu'il y a quand même une inquiétude à ce niveau-là, en France. Et contrairement à ce que Marine Le Pen pouvait dire ce matin quand elle était invitée sur France Inter et qu'elle parlait justement de toute cette question-là, elle disait, bon, en fait, personne ne remet ça en question.
Oui, bien
en fait,
sûr.
Si,
ouais.
Quand même, c'est une vraie question, même quand tu regardes ce qui s'est passé en Espagne il y a quelques années, où là, il y a eu vraiment des débats sur le fait de remettre en question l'IVG. Et du coup, c'est vraiment une préoccupation qu'on a en France. Et à côté de ça, du coup, les Français sont très largement favorables à ce qu'il y ait une constitutionnalisation de l'IVG. C'est 81% des Français.
C'est énorme.
Oui, il y a une très majoritaire dans l'ensemble des
Français. Et qu'est-ce que ça nous dit finalement, Macron, il écoute l'opinion quand ça lui fait plaisir?
Il écoute l'opinion quand ça lui fait plaisir et surtout quand ça l'arrange, parce que là, de pouvoir remettre la barre à gauche après la séquence des retraites aussi, où il a été quand même pas mal attaqué sur le fait d'être hyper libéral, la promesse de Macron en 2017, c'était et de droite et de gauche. Maintenant, c'est plus et de droite et encore de droite. Donc, d'avoir une mesure un peu phare comme ça sur un sujet de société. Ce qu'a pu faire Hollande aussi avec le mariage pour tous, finalement. C'est quand même quelque chose qui est...
Oui, au moment d'un débat un peu enflammé sur la réforme des retraites.
Complètement.
Le timing n'est pas inintéressant.
Ben voilà, on parle de ça, du coup.
Ouais, bien sûr.
Il va falloir se méfier de la manière dont va être... parce que tu parlais des dispositions juridiques, mm-hmm. de la manière dont la loi va être votée ou pas, du coup. Ouais. Puisque ça va être un packaging constitutionnel.
Oui.
Ça va être un packaging constitutionnel. On ne sait pas de quoi il va être comporté à part la constitutionnalisation de l'IVG. À tous les coups, on va avoir avec la baisse du nombre de députés. J'ai lu certaines sources qui parlaient aussi du septennat. Voilà. On va.
Bah oui, tiens, qu'à septennat. Tu pourquoi pas ne plus limiter les mandats dans le temps. Oui. Hein, c'est vrai.
C'est la Russie, ça, madame.
Ah oui. Et pas n'importe laquelle.
Et pas n'importe laquelle.
Vous avez la rêve, bien sûr. Bon.
Mais le fait est que s'il inclut ces deux propositions, par exemple, dans le packaging, est-ce qu'il y aura toujours les 3/5 à l'Assemblée nationale, enfin, au Congrès, pardon, pour le vote.
C'est deux questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre.
En plus,
tout à fait. Ouais.
Même si c'est nécessaire.
Sachant que la première tentative de réforme constitutionnelle de Macron avait été bloquée, ça l'arrangeait bien, par le Sénat en 2018. Ouais. Donc voilà.